Vous écoutez On lit pour vous.
Rachel Bédard, éditrice féministe. Une entrevue dirigée par Guillaume Tremblay-Boilly, parue le 26 septembre 2024 dans Les nouveaux cahiers du socialisme. À quelques minutes de marche de la station de métro Parc à Montréal, se trouve la maison Parent-Robac. Nommée en l'honneur de deux grandes militantes féministes, cette maison rassemble sous un même toit des organismes sans but lucratif voués à la cause des femmes. Par une froide soirée de novembre, je m'y suis rendue pour rencontrer Rachel Bédard aux éditions du Remue-Ménage. Pendant plus de 40 ans, Rachel s'est consacrée à l'édition féministe. En compagnie de Valérie Lefebvre-Fauché, qui a été sa collègue à Remue-Ménage pendant plusieurs années et qui est maintenant co-directrice de la revue Liberté, on discute des choix éditoriaux de la maison d'édition, de l'évolution du mouvement des femmes et de la fondation de la maison Parent-Robac. Guillaume Tremblay-Boilly, est-ce que tu peux me dire de quel milieu social tu viens, dans quel contexte tu as grandi? Rachel Bédard, je viens de la classe moyenne. Mes parents étaient engagés dans les associations parents-maîtres. Ils étaient passionnés des questions d'éducation. Dans les années 1960, à Belleuil, où on habitait, ils avaient décidé de s'impliquer dans le nouveau Parti démocratique, NPD, dans un comté où il y avait vraiment du patronage et des libéraux bien établis qui dirigeaient tout. Ils se sont dit « on va leur chauffer les fesses un peu ». Thérèse Casgrain et Michel Chartrand étaient venus faire des discours. Le NPD est arrivé deuxième. Mes parents ne s'étaient pas présentés eux-mêmes parce que mon père passait pour une tête brûlée. Ils avaient recruté un digne médecin de Saint-Hyacinthe. Ils ont obtenu un bon résultat alors que le NPD avait fait patate à l'échelle du Québec. Ils ont bien aimé cet épisode-là. Je peux donc dire que j'ai des parents engagés. Guillaume? Donc, ça jasait politique chez toi? Rachel? Oui, tout à fait. Et l'esprit critique était encouragé. Ma mère s'occupait d'une famille de 7 enfants et mon père était réalisateur à Radio-Canada. Son école de militantisme avait été la grève des réalisateurs en 1959. Il y a des familles où l'on se raconte des souvenirs de guerre. Mon père, lui, parlait de la grève et des personnes qu'il avait admirées comme René Lévesque ou Jean Duceppe. La grève a été un moment charnière pour lui. J'avais 6 ans, mais souvent j'ai questionné mes parents sur ce qui s'était passé à l'époque. Je regrette de ne pas l'avoir fait davantage. Valérie Lefebvre-Fauché, je ne savais pas que ton père était réalisateur. Rachel? Oui, il faisait de la fiction. Cela m'a aidée dans mon travail d'éditrice parce qu'il retravaillait les textes. Il collaborait avec les scénaristes. Guillaume? T'as étudié dans quel domaine? Rachel? Au cégep. J'ai commencé en lettres, mais j'ai terminé en sciences humaines. Cela a été des années très formatrices. J'ai essayé un peu de tout. Ensuite, je me suis inscrite en linguistique à l'UQAM. J'aimais les mots et leur dimension sociale. Je me suis spécialisée en sociolinguistique durant une maîtrise que je n'ai pas terminée. Pendant que j'étais en rédaction de mémoire, j'enseignais le français langue seconde et je travaillais chez Remue-Ménage. Puis, je me suis dit que, comme je ne voulais pas travailler à l'université, ce n'était pas essentiel de finir mon mémoire. C'est comme ça que j'ai laissé tomber ce qui était idiot. Depuis ce temps, à toutes celles qui menacent d'abandonner la rédaction de leur mémoire alors qu'il ne leur reste que des corrections à faire, je dis « Hé, finis donc !» Valérie, ça t'est resté La frustration de ne pas avoir eu ton diplôme de maîtrise.
Rachel.
Pas le diplôme, mais le sentiment de ne pas avoir fini quelque chose que j'avais commencé. C'est juste ça. Parce que, non, je n'aurais pas fait carrière à l'université ni en recherche linguistique. J'aimais mieux enseigner et travailler à Remue-Ménage.
Guillaume.
Tu travaillais déjà chez Remue-Ménage à ce moment-là?
Rachel.
Oui. En 1980, je faisais mon terrain de maîtrise en même temps qu'on s'apprêtait à publier le premier tome de l'autobiographie de Simone Monet-Chartrand. C'était assez prenant.
Guillaume.
À ce moment-là, avais-tu des implications militantes?
Rachel.
J'étais proche de personnes qui militaient dans le comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, mais ma principale implication était à Remue-Ménage.
Guillaume,
comment as-tu été en contact avec l'équipe de Remue-Ménage?
Rachel,
par amitié. Il s'est trouvé que ma coloc, Suzanne Giroire, était proche de Remue-Ménage. Elle a été la première employée des éditions. Forcément, j'en entendais parler.
Valérie.
Ça se passait chez vous.
Rachel.
Oui. Il y avait beaucoup d'affaires qui rebondissaient chez nous. Même avant que Suzanne soit employée, sa sœur Lisette avait traduit le livre d'Adrienne Rich et elle faisait partie du collectif. Il y a eu un malentendu parce que la gang de Remue-Ménage s'est dit qu'on devait être bonne en français puisqu'on étudiait en linguistique, alors qu'on étudiait la linguistique générative et tout ça. C'est Nicole Lasselle qui est venue nous voir pour nous demander de faire de la révision de texte. Bien sûr que ça nous intéressait. On a dû dissiper le malentendu en disant que ce n'était pas parce qu'on était en linguistique qu'on était bonne en révision, mais qu'on allait faire notre possible.
Rire.
J'ai donc fait des révisions bénévoles, comme ça. Le travail à Remue-Ménage a été bénévole pendant longtemps. À certaines périodes, on a eu des subventions et on en a profité, mais c'était surtout un travail bénévole.
Guillaume.
Donc tu travaillais ailleurs en même temps?
Rachel.
Oui, je n'étais pas à temps plein comme enseignante. Je donnais des cours du soir. Ça permettait donc de faire en même temps de la révision bénévole. Quand on m'a offert de travailler à temps plein pour Remue-Ménage, j'ai bien sûr accepté. Mais je voulais continuer à enseigner. J'ai essayé pendant quelques années de combiner les deux, mais ça devenait fatigant.
Guillaume,
qu'est-ce qui t'interpellait au départ chez Remue-Ménage?
Rachel,
plein d'intérêts conjugués. C'était à la fois les livres et le féminisme, parce que j'étais dans la vingtaine. Et puis, j'aimais aussi les femmes qui étaient là. C'était par amitié. Il y avait ma coloc, sa sœur, et puis Nicole Lasselle qui était venue nous rejoindre. Participer à des réunions chez Remue-Ménage, ce n'était pas ennuyant. Je me portais aussi volontaire pour toutes sortes de tâches. Il y avait beaucoup de travail de bras à faire, comme distribuer les livres, envoyer les communiqués. Aujourd'hui, ça se fait par infolettre, mais dans les débuts, on le faisait en collant des timbres. J'étais une petite rapide pour faire l'adressage et tout.
Guillaume,
ta conscience féministe venait d'où? Qu'est-ce qui t'avait amené à développer une sensibilité féministe?
Rachel,
il y a l'histoire familiale. Je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants et la seule fille. J'ai été élevée dans un milieu où ce n'était pas parce que j'étais une fille que j'allais être la servante de mes frères. J'ai donc été très encouragée à m'affirmer. Mais la conscience féministe est arrivée assez tardivement, dans la vingtaine. Je me suis tout à coup décidée à lire des livres de femmes. Ça pouvait être Simone de Beauvoir, Margaret Atwood. Ça n'a pas vraiment été une décision consciente. Mes intérêts me portaient vers ça. Et, coudonc, je suis devenue féministe. Valérie, avais-tu l'impression d'être marginale?
Rachel,
autour de moi, non. À vrai dire, je ne me suis même pas vraiment posé la question. Et comment dire? On choisit aussi nos amitiés. On voit les affinités qu'on a avec les personnes. L'engagement féministe ne posait pas de problème autour de moi, ni l'intérêt pour les livres écrits par des femmes. On lisait toutes Benoît Groulx.
Valérie,
mais vous lisiez tout ça dans un groupe qui était marginal?
Rachel,
oui, je suis à l'aise dans les ghettos.
Rire.
On a une vie à vivre. Je me suis dit, pourquoi pas dans un ghetto féministe?
Valérie, parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment c'est d'arriver à remue-ménage aujourd'hui, mais à différentes époques, en arrivant à remue-ménage, tout le monde a cette impression qu'on respire, qu'on est dans un univers où on peut parler de ce qu'on aime pour vrai. On est dans un univers exceptionnel.
Rachel, j'étais déjà dans ce genre d'univers quand on m'a recrutée pour remue-ménage. À l'université, en linguistique, on était beaucoup de femmes. Et je ne me souviens pas d'adversité. Je n'étais pas en littérature ou dans des domaines où il y a plus d'adversité, de l'hostilité même.
Valérie,
la solidarité était donc plus forte? La complicité dans le groupe effaçait le reste, l'hostilité de l'extérieur?
Rachel,
oui. Tu sais, les combats pour le droit à l'avortement en linguistique, je pense que personne était contre.
Valérie,
mais il y avait quand même les flics qui débarquaient au bureau.
Guillaume,
au bureau de remue-ménage?
Rachel,
oui. C'est parce qu'il y avait des militantes du comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. On partageait des locaux avec elles. Je dis « on », mais je n'y étais pas. Je n'ai donc pas vécu ces événements-là.
Valérie,
mais la légalisation de l'avortement, c'est en 1989. Tu as donc édité des livres qui étaient quand même dangereux.
Rachel,
oui, oui. J'ai travaillé avec Lise Moisan sur « La résistance tranquille ».
Vous écoutez Rachel Bédard, éditrice féministe, une entrevue dirigée par Guillaume Tremblay-Boilly, parue le 26 septembre 2024 dans « Les nouveaux cahiers du socialisme ».
Guillaume, as-tu l'impression que vous étiez à contre-courant de la société dans votre travail?
Rachel,
il y a eu plusieurs phases. Je dirais que l'accueil était assez bienveillant. Je pense à la collection Théâtre, par exemple. C'est plus à la fin des années 1980, juste après la tuerie de Polytechnique, que j'ai vu que le féminisme avait mauvaise presse. On était perçu comme ringarde. C'est vraiment là que j'ai senti le backlash.
Valérie,
ça s'exprimait comment?
Rachel,
en même temps qu'il y avait un bon réseau de groupes de femmes et d'organisations féministes, il y avait une espèce de repli dans les médias, mais aussi dans les projets d'écriture qu'on nous proposait. Dieu merci, il y a eu l'essor des études féministes dans les universités. C'est vraiment dans ces années-là que ça a émergé. Des contacts se sont créés entre remue-ménage et les études féministes, et ce dynamisme s'est reflété dans nos publications. Mais c'était dans un climat d'adversité.
Valérie,
les groupes militants se taisaient à cette époque-là?
Rachel,
ils ne se taisaient pas. Mais on recevait moins de propositions de leur part. On en recevait plus des études féministes.
Guillaume,
vous avez donc pris un virage un peu plus universitaire?
Rachel,
à ce moment-là, oui.
Dans les médias, c'était vraiment plus difficile de faire passer nos messages. C'était avant le tournant plus militant pris par la Fédération des femmes du Québec, FFQ, à partir du milieu des années 1990, avec la marche du pain et des roses, puis la marche mondiale des femmes en 2000. C'était aussi avant le mouvement altermondialiste, Occupy, etc. Ces mouvements ont ramené les gens dans la rue pour manifester. Mais la première moitié des années 1990 a été une période vraiment dure. Valérie, est-ce que tu as l'impression qu'on s'en va vers une période difficile? Rachel, sais-tu, je me pose la question. Comment cela se fait-il qu'on ne soit pas plus dans la rue maintenant? Valérie, comment sort-on d'un backlash? Qu'est-ce qui est arrivé pour que la mobilisation revienne? Rachel, et ne me demande pas d'expliquer l'altermondialisme, Occupy et tout ça. Guillaume, mais prenons la marche du pain et des roses. Qu'est-ce qui a donné l'énergie et l'élan pour que ça se fasse? Rachel, pour ça, je voudrais rendre crédit à la Fédération des femmes du Québec et au tournant pris par le réseau de l'ère des centres de femmes. Elles se sont dit qu'il fallait mobiliser le monde. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de Polytechnique. Après cette tuerie, un essai masculiniste, le manifeste d'un salaud, avait reçu une bonne publicité dans les médias. Dans l'espace public, on entendait « Le féminisme est allé trop loin, taisez-vous ». Guillaume, dans les années 1980, tu avais l'impression qu'il y avait encore un élan favorable au féminisme? Rachel? Oui, mais ça s'est durci à la fin des années 1980. Guillaume, une chose m'intéresse à la suite de ma thèse en sociologie des mouvements sociaux et en histoire, c'est de réviser un peu les lieux communs sur les vagues militantes. On entend souvent que les années 1960, c'était don militant, c'était merveilleux. Les années 1970 aussi, dans une certaine mesure. Après, à partir des années 1980, c'est le virage néolibéral et l'effondrement des groupes militants. Mais dans les faits, il y a des auteurs et des autrices qui ont montré que c'est aussi le moment où le mouvement féministe se renforce et crée des organisations. Il a émergé en grande partie dans les années 1970, mais il se consolide dans les années 1980. Rachel, oui, puisqu'il y a aussi les comités de conditions féminines dans les syndicats. Il y a eu vraiment une consolidation. Il y a eu de beaux 8 mars. Valérie, c'était comment, les 8 mars? Rachel, c'était très festif. J'ai aussi le point de vue d'une personne qui participait au Salon du Livre. On rencontrait notre public dans ces événements-là. On voyait vraiment l'enracinement des groupes en Outaouais, à Québec et ailleurs dans les régions, pas juste à Montréal. C'était très fort au Salon du Livre de Gatineau. On sentait un intérêt. On était bien reçus par les féministes sur place. Il y avait manifestement des femmes dans l'organisation du salon qui se disaient « Faut que remue-ménage y soit. » Et elles étaient contentes de nous y voir. Il faut dire qu'on allait là avec Simone Monet-Chartrand, qui a publié les 4 tomes de son autobiographie pendant les années 1980. Le premier est paru en 1981, le dernier en 1992, avant sa mort. C'était une belle période. Elle voulait aller dans tous les salons du livre et elle connaissait tout le monde. Les personnes qui venaient la rencontrer avaient milité avec elle dans toutes sortes d'organismes à travers le Québec. C'est sûr qu'il se passait quelque chose, là. On a sollicité Simone Monet-Chartrand parce qu'on savait qu'elle écrivait sa biographie et on voulait qu'elle la publie chez nous. D'autres maisons d'édition la désiraient tout autant, puisqu'elle était très populaire. quand elle nous a annoncé qu'elle voulait publier avec Remue-Ménage, pour nous, ça témoignait de son engagement envers le mouvement féministe. On la voulait également parce qu'on se disait qu'on aurait un best-seller. Et ce fut le cas. Pour qu'une maison d'édition vive, il faut un peu de tout, il faut aussi des livres qui rejoignent un large public. Santé, Simone. Guillaume, dans les années 1980, quel projet vous animait? Quel thème vouliez-vous mettre de l'avant? Rachel, à sa fondation en 1976, Remue-Ménage se voyait vraiment comme une maison d'édition qui allait rendre disponibles des textes pour le mouvement des femmes, mais il y avait aussi un souci d'éducation populaire. Et l'objectif de faire des textes accessibles pour monsieur et madame tout le monde. Finalement, un peu plus tard, on s'est dit qu'il y avait des textes plus nichés qui feraient aussi avancer le mouvement des femmes. On a voulu refléter cela, d'où l'ouverture à des textes d'écrivaines ou d'universitaires qui étaient plus compliqués que « Maman, elle travaille pas, a trop d'ouvrages », le premier livre publié par Remue-Ménage. Cet élargissement s'est fait au début des années 1980. On voulait continuer à faire de l'éducation populaire, mais on voulait aussi publier de la poésie, publier des écrivaines qui retravaillaient la langue, des Louki Bercianic, des Nicole Brossard. Ce n'est pas de la littérature populaire, mais c'est un travail de remise en question de la langue. On a pris ce virage en même temps que la publication de textes comme « Fragments et collages » de Diane Lamoureux, une étude du mouvement des femmes. Il y avait déjà à ce moment-là un souci de documenter le mouvement et de préserver sa mémoire. L'anthologie de « Tête de pioche », le recueil de « Québécoise debout », c'était aussi dans ces années-là. Des revues avaient cessé de publier. On a voulu les reprendre pour en faire une anthologie. C'était donc très varié. Les écrits restent, une maison d'édition, après tout, ça sert à ça. J'ai du mal à dire qu'il y avait une seule direction, une préoccupation centrale. Guillaume, avez-vous une vision particulière de ce que devait être le féminisme? Qu'est-ce qui guidait vos choix? Rachel, on a toujours été très écuméniques, si l'on peut dire. On s'est donné un mandat très large d'alimenter et de nourrir le mouvement des femmes. On voulait accueillir le plus largement possible ce qui fait le mouvement féministe. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut aborder. J'aime bien répéter ce que dit Francine Descaries. S'il y a un livre sur les bûcherons avec une perspective féministe, on va le faire. On vient de faire un livre sur les femmes et le sport. En termes de thématique, ça peut aller dans tous les sens et c'est tant mieux. Valérie, mais il y a quand même des tendances théoriques qui peuvent s'opposer. Y a-t-il des moments où Remue-Ménage a choisi d'accueillir des tendances opposées? Rachel, oui, en sachant que ça allait déplaire. Si on parle de travail du sexe, par exemple, c'est un enjeu qui divise le mouvement. On a donc publié Andrea Dworkin, très critique du travail du sexe, et on a publié Lutte XXX, qui est pro-travail du sexe. Voilà où on en est. Il n'a jamais été question pour nous de refuser une perspective parce qu'on avait déjà publié un livre de la perspective opposée. Guillaume, et comment te positionnais-tu dans ces débats-là? Quand il y avait des tensions comme ça, où est-ce que tu te situais? Rachel, personnellement, plutôt pour la défense des travailleuses du sexe. Mais dans le livre d'Andrea Dworkin qu'on a publié, il y avait aussi des choses intéressantes. De plus, c'est tellement une penseuse importante, on ne l'a donc pas écartée. Valérie, est-ce que ça vient d'un souci de montrer le mouvement féministe dans toute sa pluralité? Rachel. Oui, c'était aussi ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a défendu. On fait des choix éditoriaux. Vous écoutez Rachel Bédard, éditrice féministe, une entrevue dirigée par Guillaume Tremblay-Boilly, parue le 26 septembre 2024 dans Les Nouveaux Cahiers du Socialisme. Guillaume, comment ont évolué vos liens avec le mouvement des femmes au fil du temps? Rachel, je dirais d'abord que notre déménagement dans la maison Parent-Robac a resserré les liens, ne serait-ce qu'à cause de la proximité avec les autres groupes. On est voisines. Les gens pensent plus à nous. Quand la question de l'avortement a commencé à barder, par exemple, on a pu descendre d'un étage pour aller voir les femmes de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et leur dire qu'on aimerait qu'elles écrivent là-dessus. La maison Parent-Robac, c'est le projet de deux groupes. Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féministe, CDEACF, et Relais Femmes, mais Remue-Ménage a été un des premiers groupes contactés. On a sauté là-dedans à pieds joints. C'était en 1995-96, une période où on essayait de resserrer nos liens avec le mouvement communautaire, qu'on sentait se ranimer autour de la Fédération des femmes du Québec qui organisait la marche du pain et des roses. À la fondation de la maison Parent-Robac, on voulait renouer avec la vocation initiale de Remue-Ménage, fondée en 1976 en pleine effervescence du mouvement des femmes. Et par des femmes qui étaient vraiment en phase avec tout ce qui se passait. Je te parle d'une histoire à laquelle je n'ai pas participé parce que je suis arrivée à Remue-Ménage 5 ans plus tard. Mais j'étais déjà dans les parages. Donc pour nous, en 1995, la maison Parent-Robac, c'était une belle occasion de renouer avec les groupes de femmes. Valérie, est-ce qu'il y a eu des publications autour de la maison Parent-Robac? Rachel, il n'y a pas eu de publication comme telle. Mais on avait travaillé avec Nicole Lasselle, qui avait fait des entretiens avec Madeleine Parent et Léa Robac. Le fait que la maison porte le nom de ces deux femmes-là, je ne sais pas qui a eu cette idée brillante, ça donne d'emblée l'image de solidarité qu'on voulait projeter. Guillaume, et avant la maison Parent-Robac, où étiez-vous? Rachel, on a été locataire de plusieurs bureaux. Au moment de la fondation de Remue-Ménage, on partageait des locaux au coin des rues Henri-Julien et Villeneuve avec un centre de documentation féministe qui n'existe plus. On a hérité de beaucoup de ces affaires. On a aussi partagé des locaux avec la Coordination nationale pour l'avortement libre et gratuit. On a déménagé plusieurs fois. Juste avant la maison Parent-Robac, on était dans un local au coin du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue Mont-Royal, et nos voisines étaient la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Guillaume, vous avez toujours été dans une bâtisse avec d'autres groupes féministes? Rachel, non, mais on s'est ennuyé quand on ne l'a pas été. Donc oui, on a avantage à avoir un environnement qui nous ressemble. Valérie, il y a des gens qui considèrent que l'édition, ce n'est pas de l'engagement. Ça m'énerve. Tu as passé 43 ans à faire de l'édition féministe. C'est du militantisme, non? Rachel, ben oui, ne serait-ce que parce qu'on accepte nos conditions de travail. On est souvent moins bien payé que dans des groupes, comme les syndicats. Le milieu culturel, c'est un engagement. On y met du nôtre. Guillaume, qu'est-ce qui fait qu'on garde la flamme? Rachel, il y a tellement de gratifications qui viennent avec le métier. Premièrement, on a des résultats, les livres. Et même si on fait abstraction de la réception dans les médias, Je pense que la relation qu'on établit avec les personnes qui écrivent, c'est gratifiant. De voir aboutir quelque chose. Tu as le livre dans les mains, c'est excitant. Aujourd'hui, on vient d'en recevoir un et on sait que les autrices vont être absolument excitées. C'est un plaisir renouvelé à chaque livre. On n'est pas blasé quand on ouvre la boîte d'une nouvelle parution avec l'exacto. Valérie, est-ce que tu le vois aussi pour les idées? Est-ce que tu considères que Remue-Ménage a contribué à mettre de l'avant certaines idées? Rachel, pour ça, je serais plus humble. Je pense que Remue-Ménage a fait sa place, a aidé à soutenir des voix. On a pérennisé l'histoire du mouvement. Il y a des livres qui ont été marquants. On a documenté la grève des stages, par exemple. C'est un mouvement qui continue. Mais on est plus dans un rôle de soutien que dans un rôle proprement militant. Valérie, quel est le livre dont tu es la plus fière? Rachel. Ah, j'oserais pas. Peut-être La lettre aérienne de Nicole Brossard, parce que cela a cassé mon syndrome de l'imposteur. J'étais une jeune éditrice et Nicole Brossard était un monument. Je prenais des gants blancs pour dire « ça a l'air d'une faute », alors que je savais bien que c'était une subversion de la langue. Mais elle m'a dit « tu as raison. Il ne faut pas qu'une transgression ait l'air d'une faute. » On a donc arrangé ça. C'était un défi, mais il fallait que je fasse mon travail d'éditrice. Guillaume, est-ce qu'il y a des collaborations avec certaines autrices qui t'ont paru particulièrement fructueuses, qui t'ont marqué? Rachel, je pense beaucoup aux livres plus récents, comme celui de Florence Agathe Dubé-Moreau sur les femmes et le sport. C'est un engagement féministe qui me touche beaucoup. Elle est dans un milieu où il y a de l'hostilité et elle se dit « j'y vais ». J'admire les autrices en général. Je suis déjà nostalgique des rencontres que j'ai faites. Gabrielle Giasson-Dulude, quelle femme lumineuse! Soleil Launière aussi. Valérie, c'est tellement ton genre de parler de tes rencontres marquantes les plus récentes. C'est une attitude d'éditrice, je trouve, de toujours penser au prochain livre, d'être constamment à la recherche, se demander ce qui nous manque, ne pas regarder ce qu'on a déjà fait. Rachel, oui, et se demander, c'est quoi le potentiel d'une autrice? Aujourd'hui, on a vraiment des publications diversifiées. Je peux dire que je prends ma retraite en étant confiante pour la suite. Je ne l'aurais pas prise sinon. Guillaume, qu'est-ce qui te donne confiance? Rachel, les personnes qui sont en place, les projets qui nous sont proposés, l'effervescence du mouvement. Je me dis qu'on n'est pas dans un creux de vague. Même si les temps sont durs, la résistance est là. Guillaume, alors qu'à la fin des années 1980, c'était différent? Rachel, on dirait que les femmes avaient moins envie d'écrire, qu'il y avait moins de canaux pour s'exprimer. Les grands médias écoutaient moins les voix féministes. Valérie, il y a eu des époques vraiment hostiles. J'ai vu des salons du livre où les gens venaient nous insulter. Ils faisaient des détours en nous regardant avec dégoût. Rachel, on prépare un livre avec la coalition des familles LGBT. Ils célèbrent un anniversaire et ils ont un projet d'expo photo, mais ils ont aussi fait des entretiens avec des familles. La notion de famille est incarnée dans toutes sortes de configurations. Ce sont des personnes qui se faisaient insulter dans les salons du livre. D'un autre côté, il y avait Léa Robac, qui venait nous voir et qui nous disait « j'aime tellement ce que vous faites » et Madeleine Parent, qui assistait à nos lancements. Valérie, ça, c'est super beau, la continuité des femmes, les militantes, les autrices et les fondatrices qui viennent voir les générations suivantes. Rachel, et qui se réjouissent du fait qu'il y a une relève. À un moment donné, notre public vieillissait. Mais il a pris un grand coup de jeunesse dans les dernières années. Ça m'émeut à chaque salon du livre. Guillaume, ça s'est passé à quel moment? Rachel, c'est graduel. Mais ça s'est accéléré dans les dernières années. Des filles de 15-16 ans des écoles secondaires viennent squatter notre stand et se plonger dans nos livres. À chaque fois, je n'en reviens pas. C'est bon signe. Des féministes décomplexées comme ça. On pourrait croire à un effet de mode, mais c'est plus que ça. Il y a un mouvement de fond. C'était Rachel Bédard, éditrice féministe, une entrevue dirigée par Guillaume Tremblay-Boilly, parue le 26 septembre 2024 dans les Nouveaux cahiers du socialisme.
Autochtonie urbaine. Vivre en communauté et en ville, c'est deux mondes différents. Un texte de Myriam Bouliane, paru le 17 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Au Canada, une forte proportion d'Autochtones optent pour la vie en milieu urbain plutôt que dans leur communauté. Si la vie en ville offre davantage de services, leur intégration est toutefois parsemée d'obstacles en raison des différences culturelles. Qu'ils partent sur une base volontaire ou non, les Autochtones ont de nombreuses raisons de quitter leur communauté pour migrer vers la ville. Poursuivre des études, chercher du travail, trouver un logement ou recevoir des soins médicaux. Mais bien d'autres motifs expliquent cet exode. Noëlla Petitquet a été expulsée par le chef de sa communauté dans les années 1980 en raison de sa relation avec un allochtone. Irène Dubé a dû être placée dans une famille d'accueil à l'âge de 12 ans en raison de problèmes familiaux. Stacy Awashish a dû déménager en raison de la pénurie de logements et de la surpopulation des maisons dans sa communauté alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Au Canada, de 2016 à 2021, la population autochtone vivant dans un grand centre urbain a augmenté de 12,5%. Au Québec, les Autochtones habitent ou fréquentent une cinquantaine de municipalités, principalement de Montréal et de Québec, mais également Chibougamau, Joliette, Latuque, Maniwaki, Roberval, Saguenay, Sainte-Terre, Sept-Îles, Sherbrooke, Trois-Rivières et Val-d'Or. Source : Statistique Canada et Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Dans l'agglomération de Latuque, qui compte les communautés atikamekw de Wemotassi et d'Opitsiwan, la Table régionale de l'éducation de la Mauricie estime que 29,3% des résidents ont une identité autochtone, tandis que dans les autres municipalités de la province, ce pourcentage oscille entre 6 et 12% de la population. Pour Stacy Awashish, 34 ans, le choix de quitter Wemotassi pour s'établir dans la ville de Latuque il y a une quinzaine d'années s'est également imposé pour que ses enfants puissent bénéficier des services scolaires. Mais naviguer dans le système d'éducation québécois s'est révélé ardu. Citation : J'étais jeune. Moi-même, je n'avais pas terminé l'école, donc je ne savais pas comment fonctionnait le système d'éducation. C'était toutes des choses que j'ignorais. Fin de citation, admet-elle. La transition a aussi été difficile pour son fils. Il a dû redoubler la première année du primaire pour ensuite être placé en classe d'adaptation pour troubles d'apprentissage. C'est ce qui arrive, citation, quand tu as un enfant qui arrive de la communauté dont la langue maternelle n'est pas le français et qu'il est obligé de suivre le programme de langue maternelle francophone. Fin de citation, explique Lauriane Petitquet, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Latuque, CAALT. Environ 95% des Atikamekw parlent leur langue maternelle. Dans les communautés, ce pourcentage monte à près de 100% selon le Conseil de la Nation Atikamekw. Une fois en ville, cette barrière linguistique entrave également l'accès aux soins de santé et à la justice, soutient la patronne du CAALT. Citation, c'est un enjeu de transition. Les gens ont besoin d'accompagnement. Par exemple, quand tu vas à l'hôpital, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ce n'est pas la même chose de vivre en ville et vivre en communauté. C'est deux mondes différents, soutient Lauriane Petitquet. Mais au-delà de la langue, c'est aussi la façon d'être, la façon de penser, la façon de voir, la façon de comprendre qui sont différentes. Fin de citation. Citation. Moi, ma sœur, quand elle est arrivée en ville, je lui ai dit « Là, ton enfant, il ne peut pas jouer tout seul dehors, sinon tu vas te faire signaler. » Fin de citation, poursuit la directrice du CAALT. Citation. Mes petits-enfants, ils sont toujours excités quand ils vont en communauté, car ils se sentent plus libres. Fin de citation, ajoute à son tour Noëlla Petitquet, 62 ans, qui occupe le poste de réceptionniste au centre d'amitié. Citation. T'es aussi plus à l'aise en communauté, car tu sais que tu ne vas pas te faire taper sur les doigts, tu ne vas pas te faire juger. Fin de citation, renchérit Urène Dubé, 45 ans. Cette dernière se souvient que lorsqu'elle est débarquée en ville à l'âge de 12 ans, elle avait une grande méfiance. Citation. Quand j'étais à Opitsiwan, on disait des choses sur les allochtones. Donc, quand je suis arrivée à la TUC, j'avais peur d'eux et je ne parlais pas français. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi, ils parlaient contre les autochtones. Fin de citation, relate-t-elle. Vous écoutez Autochtonie urbaine. Vivre en communauté et en ville, c'est deux mondes différents. Un texte de Myriam Bouliane, paru le 17 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Les autochtones en ville, pas juste de l'itinérance. Selon le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, peu de chercheurs ont étudié le phénomène de l'autochtonie urbaine, préférant concentrer leurs études sur les autochtones en communauté et en régions éloignées. Pour pallier ce manque de données, le regroupement a mis sur pied en 2022 un observatoire des réalités autochtones urbaines. Citation. Quand on parle des autochtones en ville, souvent, ce qui ressort, c'est l'itinérance ou l'alcool. On veut transformer ce discours-là, parce que oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas juste ça dans l'autochtonie urbaine. Fin de citation, dit Julie Girard, directrice générale de l'Observatoire des réalités autochtones urbaines. Cette dernière a récemment élaboré une stratégie et établi des partenariats avec des chercheurs afin d'établir les sujets de recherche à explorer. Elle a d'ailleurs fait appel à Stéphane Guimont-Marceau, professeur adjoint au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, qui, depuis 2019, réalise une recherche sur le terrain à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, sur les thématiques de l'identité et de la culture. Citation. J'ai parlé à des femmes autochtones qui sont très attachées à la ville dans laquelle elles habitent. Elles aiment aller au resto, aller magasiner à la boutique Ardennes. Mais elles m'ont aussi raconté des expériences négatives au cours desquelles elles ont vécu du racisme dans les espaces publics. Fin de citation, explique la professeure adjointe. Parmi les autres thématiques ciblées par l'Observatoire, notons la santé, le logement et les structures de gouvernance des Autochtones hors des communautés. Citation. Dans les communautés, il y a les conseils de bande. Mais pour les Autochtones en milieu urbain, ce sont des bibites qui ne sont pas soumises à la loi sur les Indiens, donc ça bouleverse la gouvernance traditionnelle. Fin de citation, soutient pour sa part Julie Girard. De son côté, Lauriane Petitquet estime qu'un type de gouvernance autochtone et communautaire dans un milieu urbain pourrait même diminuer les écarts entre autochtones et allochtones. Le CAALT essaie d'ailleurs de créer une offre de services qui prend en compte les pratiques culturelles, le savoir-faire et la façon de penser des autochtones, précise-t-elle. Citation. C'est positif pour une municipalité de permettre aux Autochtones qui y habitent de pouvoir être ensemble, de s'organiser, de pouvoir s'ancrer dans leur culture et leurs pratiques. Fin de citation, dit Lauriane Petitquet, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la TUC. C'est aussi une manière, selon elle, de faire rayonner la présence des Autochtones dans les villes. Lauriane Petitquet souligne les efforts de la ville de Latuc qui communique avec l'organisme pour faire traduire des documents en Atikamekw. Citation. Mais ce n'est pas acquis, ce n'est pas un automatisme. Fin de citation. Citation. Il y a plusieurs chemins vers la réconciliation, comme la reconnaissance d'une présence autochtone en ville. Fin de citation, ajoute-t-elle. Un retour impossible? Si la décision de quitter la communauté peut avoir été déchirante pour certains, l'éventualité d'un retour aux sources n'est pas envisagée par tous, notamment en raison de l'ancrage familial qui s'y est morcelé au fil des années et des problèmes sociaux qui y persistent. Citation. « Je ne me vois pas retourner à Wemotassi », répond catégoriquement Nuella Petitquet. « Ma maman est décédée, mon papa est décédé. Je suis bien ici à Latuc, j'ai beaucoup de famille ici. Je suis proche des territoires et pas loin de chez nous, il y a un petit bois où je vais marcher. » Fin de citation. Citation. « Mais si ma fille ou mes petits-enfants y demeuraient, c'est sûr que j'y retournerais. » Fin de citation, ajoute-t-elle, sans hésiter. Pour sa part, Irène semble davantage tentée par l'idée de retourner vivre à Opitsiwan. Citation. « Je me pose la question à chaque année », lâche-t-elle, visiblement émotive. « Chaque fois que la communauté construit de nouvelles maisons, je me demande si je ne devrais pas appliquer. » Fin de citation. Car plusieurs membres de sa famille y vivent encore, dont sa koukoum, sa grand-mère de 82 ans. Mais les problèmes sociaux, notamment de consommation, présents dans la communauté, l'ont dissuadé à faire le grand saut. Citation. « J'ai arrêté de consommer et je suis rendue assez loin dans mon cheminement. Et présentement, la seule stabilité que j'ai, c'est d'être avec mes enfants, et eux, ils ne veulent pas aller y vivre. » Fin de citation. Citation. « Je peux seulement parler pour nos communautés à Atikamekw, mais il y a beaucoup de choses qui m'affectent quand je vais là-bas, comme de voir beaucoup de consommation et de plus en plus jeunes. » Fin de citation, fait également remarquer Nuella Petitquet. Quant à Stacy Awashish, elle admet penser de plus en plus à retourner à Wemotassi. Il y a toutefois un « mais ». Citation. « De mon expérience, quand je vivais dans la communauté, j'étais beaucoup incitée à consommer. Et c'est ce que j'ai peur pour mes enfants, qu'ils tombent là-dedans. » Fin de citation, affirme la jeune femme qui travaille désormais comme intervenante de proximité au centre d'amitié. Puis, le retour dans sa communauté risquerait de rompre l'équilibre qu'elle s'est peu à peu construit au fil des années à Latuc, ajoute-t-elle. Un équilibre enfin trouvé parmi les nombreuses obligations de son rôle de mère, sa carrière professionnelle et son attachement à son identité autochtone. C'était « Autochtonie urbaine, vivre en communauté et en ville, ces deux mondes différents », un texte de Myriam Bouliane, paru le 17 décembre 2024 dans « Espaces autochtones ».
Mâle Alpha et Tradwife, une chronique de Julie Vaillancourt parue le 23 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Il y a eu l'élection de Trump, puis ce deuil national au Canada. La semaine suivante, la diffusion du documentaire Alpha. Puis, l'expression des grands admirateurs canadiens de Trump, des masculinistes prônant le retour aux valeurs traditionnelles. Retour sur ces désastres, où l'on imagine un spécial Noël chez nos mâles alpha pour cette édition de décembre. Discussion polémique à Tout le monde en parle. J'écoutais Véronique Loutier et Mona de Grenoble s'insurger contre les propos de l'influenceur mâle alpha Julien Bournival-Vaugeois. C'était effarant, certes. Il fallait attendre de voir ses propos au sein du documentaire Alpha, réalisé par Simon Coutu et Manuel Légaré. Et ceux de Joel McGurk, un autre mâle alpha influenceur qui s'est mis à lire la Bible et à appliquer ses préceptes. Avec la religion, une femme doit se soumettre à son mari et ce dernier doit obéir à Dieu. Pendant qu'il jase de la soumission des femmes, la sienne acquiesce et lui tient la main. Femme à la maison, homme pourvoyeur, femme docile, homme dominant, voilà la définition d'un mariage de rêve pour ces masculinistes et ces tradwives. On a reculé le calendrier en 1947, alors que l'Église catholique imposait des rôles sexistes et hyper traditionnels. Les révolutions tranquilles et féministes effacées d'un coup. On efface l'histoire et ses batailles. Encore faut-il les connaître. Ils sont fous. Le mâle alpha est le roi du monde avec sa bonne femme à ses côtés, qui pense que son pourvoyeur va arriver à la sauver si le bateau coule. Faut voir Titanic, comme disait l'autre. Réveillez-vous. Puis, Julien Bournival-Vaugeois s'en prend aux drag queens et trans, sans distinguer les deux réalités, bien sûr, en disant que ça n'a pas d'allure qu'il raconte des histoires pas d'allure aux enfants dans les écoles. Bien sûr, il n'a jamais assisté à l'heure du conte de Barbada, à l'instar du réalisateur. Il parle à travers son chapeau de sa propre expérience, car il se présume un regard critique informé et pertinent. C'est un des problèmes aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux. Dès que certaines personnes ont beaucoup d'abonnés, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ça booste leur ego et leur présume un propos pertinent. Exemple, le gourou Andrew Tate qui endoctrine toute sa gang de fidèles alpha. Dans nos sociétés contemporaines, visibilité égale crédibilité, principe phare de la publicité à l'ère des médias sociaux, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Le meilleur exemple, Trump. La plupart des promesses évoquées lors de sa campagne électorale, immigration, économie, sont irréalisables selon les experts. Ses paroles en l'air font du bruit et génèrent un écran de fumée. Ceux et celles qui veulent du pain et des jeux sont complètement aveuglés par cette fumée orange. Au point où ils et elles préfèrent voter pour un homme criminel, reconnu coupable d'agression sexuelle ou civile, au lieu d'une femme. L'ironie, c'est que les Américains ont voté pour un homme qui méprise leur liberté et leur démocratie, puisqu'il se moque du système et de ses congénères, voulant protéger les femmes, qu'elles le veuillent ou non. Le même homme qui, sans surprise, a plongé le pays dans le conservatisme, ramenant les droits des femmes 50 ans en arrière, avec le renversement de la décision Roe contre Wade, qui légalisait l'avortement à l'échelle nationale en 1973. Puis, on lui donne pratiquement carte blanche pour faire ce qu'il veut. Et j'entends dire dans le documentaire que les pauvres mâles alpha manquent de modèles. Ouvrez vos yeux. Ce sont plutôt les femmes qui manquent de modèles et surtout de solidarité. Comment de jeunes femmes peuvent-elles voter pour Trump après tout, en sachant qu'il a été condamné pour agression sexuelle et qu'il tient des propos misogynes? Comment de jeunes femmes peuvent-elles réellement désirer se soumettre à leur mari au détriment de leur propre liberté d'agir et de penser? Comment de jeunes femmes peuvent-elles renier des décennies de féminisme, faire fi de l'histoire et de ce qu'elles sont? Accepter qu'un homme ou qu'un gouvernement contrôle leur corps? L'élection de Trump et ses tendances masculinistes sont dangereuses, particulièrement pour les droits des femmes. Si je suis tombé en bas de ma chaise lorsque j'ai entendu ces influenceurs rétrogrades, constater les réactions des jeunes femmes de ma classe au cégep m'a rassuré, puisqu'elles se sont moquées de ces mâles alpha et de leur scénario de masculinité toxique. Et si on s'en moquait de ce Noël du mâle alpha, question de réveiller toutes ces tradwives. Je m'inspirerai tout simplement de faits réels, ceux des générations précédentes, du quotidien de feu ma grand-mère qui faisait office de bonne, particulièrement lors des soupers des fêtes. Après être allée à l'église pour se faire sermonner par un homme sur comment elle devrait agir, et qui pense en connaître davantage sur sa propre condition de femme qu'elle, parce qu'il eut messager de Dieu, elle rentre à la maison, qu'elle a préalablement torchée seule de fond en comble, comme chaque jour. Elle s'apprête à réchauffer, finaliser le grand repas du soir qu'elle a préparé toute la journée, voire pendant plusieurs jours. Mais avant, elle sert une bière à l'homme alpha, car lui, il a eu une grosse journée, même si ça tombe un week-end de congé, dans sa semaine de 4 jours en télétravail, car la bonne femme s'occupe 24/7 de ses enfants, puisque le mâle alpha ne les garde jamais. Il fait élever ses progénitures, de préférence masculine, par sa boniche Tradwife. Retour au souper, car faudrait pas tout brûler, même si la femme roche en cuisine, elle n'a pas d'aide, sauf si elle a eu, le malheur ou le bonheur, c'est selon, de mettre une fille au monde. Ensuite, elle sert l'homme et les enfants. On s'en fout si elle mange chaud ou pas. Elle doit servir le mâle alpha qui a tellement faim, car il travaille tellement fort physiquement, surtout les influenceurs d'aujourd'hui. Elle mange rapidement, car elle doit répondre à toute demande, se lever s'il manque des choses pour le mâle ou les enfants, car ils n'ont pas de jambes. Par la suite, elle doit tout ranger et laver pendant que le mâle alpha est parti digérer au salon, en écoutant le hockey ou en regardant ses multiples admirateurs sur les réseaux sociaux, car ça fait partie de son travail de dire à ses admirateurs comment dompter leur femme. Parlant de dompter, après un bon souper, une bonne baise. Pas de refus ou de contraception, car c'est le mâle alpha qui décide. La femme soumise n'a pas son mot à dire, surtout que c'est la volonté de Dieu, et comme c'est la fête du Fils de Dieu le 25 décembre, on ne lui refuse rien. Que ça tente ou pas à la femme, on s'en fout. On a la chance d'assouvir le désir du mâle alpha, et en plus de potentiellement agrandir la lignée de sang et de nom du dieu mâle. De toute façon, la job, non payée et non valorisée, de la femme, c'est de s'occuper des enfants. Le bébé naît, elle s'en occupe avec tous les autres. Imaginez le beau cadeau de Noël. Le cycle recommence, la vie continue. Le mâle alpha va se coucher le ventre plein, sexuellement rassasié, puis la femme bêta, tradwife, s'endort épuisée, contente de recommencer son cycle d'esclavage dès 3 heures du matin, parce que le petit dernier ne fait pas ses nuits. Mais que voulez-vous? C'est la volonté de Dieu. La vie rêvée des mâles alpha, la vie soumise des tradwife. Joyeux Noël! C'était « Mâle alpha et tradwife », une chronique de Julie Vaillancourt parue le 23 novembre 2024 dans le magazine Fugue.